bénissons, toi qui es au contrôle. Nous te bénissons, toi qui as tout entre tes mains. Nous te bénissons, toi qui veilles sur nos familles. Nous te disons merci, toi qui veilles sur nos enfants. Comme Israël, nous pouvions dire, celui qui nous garde ne sommeille ni ne dort. Merci Yahweh parce que tu nous fais du bien. Tu veilles sur nous dans le moindre détail. Alors nous voulons encore ce matin écouter ta sainte parole. Nous te prions de nous parler encore, de nous faire du bien au travers d'elle. Père, à cette femme qui réclamait le pain pour son enfant, pour sa fille qui était tourmentée par un démon, une parole avait suffi. Tu lui as dit, ta fille est sauvée. Et quand elle est retournée à la maison, elle a vu sa fille assise et les démons, dit la Bible, étaient sortis de lui. Père, ce matin, une parole suffit pour nos enfants, suffit pour nos familles. Fais-le pour ta gloire. C'est dans les merveilleux noms de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen en acclamant le roi de gloire. Amen. Nous disons à Dieu merci. Nous nous invitons à ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, un texte avec lequel nous sommes déjà habitués. Marc chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 30. Si cela ne nous dérange pas, nous vous prions de nous tenir debout pour qu'ensemble nous lisions les Saintes Écritures. Jésus étant parti de là, s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sît. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque syrophénicienne d'origine. Elle pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, répondit-elle, mais les petits chiens mangent sous la table ce qui tombe, les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. À cela, nous ajoutons ce passage des Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous lirons les versets 6 et les versets 7. Et ensuite, nous allons aller au 21e chapitre pour lire les versets 8. Commence avec les premiers passages, Actes 8, 6 et 7. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Actes 21, 8 et 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Si nous pouvons très bien retenir cette dernière phrase. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur et nous reprenons nos places? Donc c'est aujourd'hui que nous allons conclure notre semaine de séminaire sur le pain des enfants. Le plan du cours, vous l'avez, on a commencé avec l'introduction et aujourd'hui il nous reste la dernière leçon. Et puis avec cette leçon, nous allons aussi conclure. Et dans la leçon d'aujourd'hui, c'est intitulé comme si réussir dans sa vie avec sa famille. Réussir dans sa vie avec sa famille. La vraie réussite ne doit pas être de manière individualisée, mais doit être familiale. Réussir dans sa vie avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, avec son mari et les enfants. Donc toujours dans l'esprit des pains des enfants. Les pains des enfants, comme les contextes nous l'ont montré, dans les contextes, c'est plus allusion est faite au miracle que cette femme devait bénéficier pour sa fille qui était malade. Mais le Saint-Esprit nous a quand même ouvert les yeux pour que nous puissions voir d'autres choses qui sont insérées dans ces passages et pas les moindres. Le pain des enfants. Par le pain des enfants, nous avons y a parlé les défis et les enjeux auxquels toutes familles de la terre font face. Toutes les familles font face. Le pain des enfants, c'est le droit des enfants, c'est le devoir des parents. Et là, c'est une interpellation pour tous les parents. Ces passages nous interpellent. Cette femme dont la fille était possédée, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas elle qui était possédée, mais c'était sa fille qui était possédée. Elle est allée plaider la cause de sa fille auprès de Jésus. Et cela doit nous interpeller en tant que parents. Nous sommes appelés à chercher le bien de nos enfants. En tant que parents, nous sommes appelés à chercher le bonheur de nos enfants, le pain des enfants. C'est ce que les enfants ont de plus précieux. Chaque jour, ils ont besoin de ce pain. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, nous parlons de réussir dans sa vie avec sa famille. Ce que nous devons savoir d'emblée, c'est quoi? C'est que la réussite dans la vie ne se mesure pas via les exploits que nous avions accomplis. Tu as eu à construire des meubles, tu as eu des véhicules. Ce n'est pas ça qui va traduire la réussite dans ta vie. Tu as beaucoup de maisons, tes affaires sont prospères. Laissez-moi encore te dire ce matin, ce n'est pas ça qui va déterminer la réussite dans ta vie. Tu as un ministère florissant, tout marche bien. Laissez-moi encore te répéter ce matin, ce n'est pas ça qui va traduire la réussite dans ta vie. Ta vie professionnelle est prospère, tu occupes des postes importants là où tu travailles. Laissez-moi encore ce matin te rappeler, te certifier que ce n'est pas ça qui détermine la réussite dans ta vie. Mais ce qui détermine la réussite dans la vie, bien-aimé, ça va également se voir dans la manière dont nos familles se présentent durant notre vie et voire même après notre mort. À quoi bon tu avais beaucoup de moyens et après ta mort, les moyens en question n'existaient pas. Après toi, il ne faut pas qu'il y ait un chaos social. Après toi, il faut que tes enfants continuent à jouir de tes biens. C'est le genre de richesse que Jacob avait laissé à ses enfants. Dans Jean 4, nous voyons la femme samaritaine en train de se vanter de ce qu'avait fait leur père Jacob. Et elle a même défié Christ en disant, notre père Jacob a creusé ce puits et nous a laissé. Lui-même a bu ce puits. Bien que Jacob ne plie, mais nous, ses enfants, nous continuons à boire l'eau de ce puits. Je prie que ta richesse puisse servir à tes enfants et aux enfants de tes enfants après toi. Que cela ne s'arrête pas avec toi. Le jour où tu quitteras la terre, ne quitte pas avec la richesse que Dieu t'avait donnée sur la terre. Il faut les laisser à des différentes générations qui resteront après toi. La notion de la réussite dans la vie doit s'accompagner aussi de la réussite dans la famille. C'est-à-dire nos enfants, nos femmes, ou disons nos maris, doivent en profiter. Réussir seul, cette notion n'est pas biblique. Réussir seul, cette notion n'est pas fondée. Émerger dans la société ou dans la vie professionnelle et faire naufrage dans sa famille, c'est un échec total. Tu as réussi partout. Mais quand tu fais naufrage dans ta propre famille, laissez-moi te dire, c'est un échec global. C'est quoi réussir en famille? C'est quoi réussir plutôt dans sa vie et avec sa famille? C'est réussir dans tous les autres domaines avec le concours aussi de ta famille, avec l'implication de ta famille. Tu ne dois pas réussir seul. Il faut que ta réussite soit liée au travers de tes enfants. Quand les gens regardent ta famille, qu'on dise oui, cet homme a réussi. Quand les gens regardent combien tes enfants sont éduqués, les gens diront oui. Cet homme a réussi. Donc pour que l'on parle de la réussite, elle doit être visible non seulement dans la vie de l'individu, mais aussi et surtout dans celle de ses enfants. Pour que l'on parle de la réussite dans ta vie. Il ne suffirait pas qu'on te regarde seulement toi. Ah, cet homme a réussi. Non. Cette réussite sera constatée si on la voit aussi dans la vie de sa femme, si on la voit aussi dans la vie de ses enfants. La réussite individualisée, elle est nulle si elle ne se fait pas accompagner dans la réussite de toute la famille. Et là, nous devons le savoir. La Bible déclare dans Proverbe 24, verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle est affermée. Nous avons besoin de la sagesse pour arriver à bien gérer nos familles, pour arriver à introduire nos familles dans notre réussite. Nous avons besoin de la sagesse. Nos vies et la vie de nos familles font face à beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup d'enjeux qui se présentent devant nous. Et il nous faudra de la sagesse. Sans cette sagesse, beaucoup de familles vont faire naufrage. Même au moment où leurs pères vont émerger dans tel ou tel autre domaine. Nos familles, pour bien la gérer, il faut de la sagesse. David ne dit-il pas, plutôt ne dit-il pas, sinon les proverbes ne dit-il pas que la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Et quand nous parlons de la réussite au niveau de la famille, cela se voit à des niveaux. Ou disons, la gestion de la réussite se présente à des niveaux. Et ces des niveaux sont des défis. Réussir dans sa famille, le premier niveau des défis, c'est de réussir sa vie de couple. On ne peut jamais prétendre réussir en famille s'il y a des problèmes au niveau de ta vie de couple. Le deuxième niveau, nous voyons les défis de réussir dans sa famille, dans sa relation avec ses enfants. C'est quand nous parlons de la famille. Un, la vie de couple d'abord. Comment se présente la vie de couple? Deux, comment se présente ma relation avec mes enfants? Commençons avec les premiers défis. Les défis de réussir sa vie de couple. C'est les défis de tout conjoint sérieux. C'est le défi de tout homme marié qui est sérieux. Il cherchera toujours à réussir sa vie de couple. C'est le défi de toute femme mariée qui est sérieuse. Elle cherchera toujours à réussir sa vie de couple. Si un homme ne cherche pas à réussir sa vie de couple, c'est qu'il a déjà de sérieux problèmes. Et les deux cas sont là, vont nous aider à approfondir sur la réussite dans sa vie de couple. Commençons avec le premier cas. Il y a d'abord David et ensuite il y a le cas de Job. Mais commençons d'abord avec le cas de David. Quand nous regardons la vie de David, waouh, une vie au départ remplie de succès et de réussite. La première mention de David, nous la voyons dans 1 Samuel 16, quand Samuel a été envoyé pour aller oindre David. C'est à ce moment-là où on parle de David. Et dans 1 Samuel 17, c'est le fameux chapitre avec David qui va écraser Goliath. David reçoit l'onction, David écrase Goliath. Et quand je lis maintenant 1 Samuel 18, verset 5, là on nous montre David qui allait et réussissait partout où il était envoyé. Un David qui réussissait partout. Il serait même mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Et la Bible dit que David plaisait à tous les peuples. Même aux serviteurs de Saoul. Partout où David était envoyé, David réussissait. Tout ce que David entreprenait, ça réussissait. Est-ce à cause de cela que nous pouvons arriver à conclure que David a réussi dans sa vie? Non, pas encore. Il y a encore d'autres paramètres à analyser. Bien sûr, partout où David était envoyé, David réussissait. Et les retombées même de sa réussite, il faut voir dans plusieurs cas. David, un habitué de la réussite. À cause de ses réussites, David, il était craint. Il était respecté. Les gens, quand ils étaient en face de David, ils craignaient David. Ça, c'est un homme de la réussite. Il réussit dans son entreprise. Il réussit dans ses activités. Il réussit dans son business. C'est vraiment un homme de réussite. Saoul même craignait la présence de David. Même le roi le craignait. Il craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et l'Éternel s'était retiré de Saoul. 14 dit encore que David réussissait dans toutes ses entreprises. Quelle réussite! En regardant cet homme avec les indices d'aujourd'hui, on peut dire que non, David c'est un homme qui a réussi dans sa vie. Faudra-t-il directement conclure ainsi? Il excelle dans l'entreprise là où il travaille. Ses affaires prospèrent. David, la Bible dit que même au verset 15, Saoul voyant qu'il réussissait toujours, ça veut dire quoi? La réussite de David était évidente. Saoul, voyant que David réussissait toujours. Ma prière ce matin, que ta réussite soit évidente au nom de Jésus-Christ. Que les gens se rendent compte de combien tu réussis au nom de Jésus-Christ. Saoul était conscient de cela. Saoul a vu que David réussissait toujours. Et il avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Ça veut dire sortir là, c'est aller en guerre et retourner de la guerre avec succès. Saoul était conscient de combien cet homme, David, réussissait partout. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça, à un moment donné, que l'âme de Jonathan va s'attacher à celle de David. Parce que Jonathan avait pris conscience des niveaux élevés de réussite dans la vie de David. Il a dit, non, il faut que mon âme s'attache à ce garçon, suite à ses réussites répétées. Et cela fera de David un des personnages les plus importants dans la Bible. À cause de ses réussites. Il deviendrait même plus tard une bonne référence royale. Parce que tous les rois qui se succédaient en Israël étaient jugés en fonction de David. Deux Chroniques 29, verset 2. Il dit que le roi Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Donc David était devenu une référence en matière de la réussite sur le trône. On s'est référé à David. Il était devenu une icône en Israël. Même la chose qui a fait que Jésus puisse s'arrêter quand Bartimée criait, c'était du fait que Bartimée avait dit, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Donc même pour identifier Jésus, Bartimée a fait référence à David. Et cela fait que Jésus puisse s'arrêter. Une icône respectable en Israël. Mais c'est David, l'homme habitué à la réussite. Contrairement à Jésus de Ésaïe chapitre 53, l'homme habitué à la souffrance. C'est David, l'homme habitué à la réussite. Il avait de sérieux problèmes. Il y avait des endroits où David n'avait pas réussi. Et à cause de ses échecs dans ces endroits-là, on peut conclure d'une manière globale que la vie de David était un échec. Même si c'est trop fort. Mais c'est ça. C'est ça. Même si c'est trop fort, mais c'est ça. Sa vie en totalité était un échec. Parce que David avait échoué à des niveaux. Face aux deux défis liés dans la gestion de sa vie avec sa famille, David avait échoué. Et comme nous parlons d'abord des récits dans sa vie des couples, faisons une étude approfondie de la vie des couples de David. Bien sûr, il y aura d'autres choses qu'on aura à approfondir dans la réunion des couples. Allons-y un peu avec la vie des couples. Faisons une descente pour faire une analyse approfondie de la vie des couples de David. Il suffirait seulement de voir la réaction de sa femme Michal quand David dansait. Écoute, la Bible déclare, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fils de Saul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle les méprisa dans son cœur. David s'en retourna pour bénir sa maison. Michal, sa fille, sortit. Michal, fille de Saul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et ses serviteurs. Comme les découvrirait un homme de rien. Par ses propos, Michal se moque de David. Quel genre de roi tu es? Sans honneur. Quel genre de roi tu es? Sans excellence. Quel genre de roi tu es? Pour dire que la femme de David ne marchait pas sur la même longueur d'onde que son mari. Quel genre de roi tu es? La femme se met à mépriser son mari. Cela prouve à suffisance qu'il y avait une complication dans la vie de David. Dans sa vie, surtout des couples. Et ce qui est encore grave, c'est quoi? Puisque quand sa femme lui a dit toutes ces choses-là, ce qui est encore grave, c'est quoi? C'est la manière dont David va réagir. David réagit d'une manière des hommes tout spirituel, très très spirituel. C'est comme ça que David a réagi. David, il était très, très spirituel. Mais dans sa réaction, il n'avait pas de sagesse. Dans sa réaction, il n'avait pas de respect, même pour son défunt beau-père. Écoute ce que David dira. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef du peuple de l'Éternel sur Israël. Donc, par ses propos, David manque même du respect à son beau-père. C'est l'Éternel qui m'a choisi. David, tu pouvais t'arrêter par là. Mais pourquoi continuer en disant, c'est l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père? pour dire que c'est ton père qui est un homme de rien, parce que Dieu m'a choisi de préférence à lui. C'est l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton bon père et à toute sa maison pour m'établir chef d'Israël. Il dit, je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Mica, la fille de Saul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. À ce niveau, qu'il aurait dû faire David, c'était peut-être de recadrer sa femme, de conseiller sa femme, d'enseigner sa femme. Sa femme l'attaque méchamment, David aussi répond méchamment. C'était la méchanceté dans cette maison. Sa femme se moque de lui, lui aussi se moque de la maison, de sa belle famille. David, c'est une affaire entre toi et ta femme. Pourquoi s'attaquer à ton défunt père qui n'est plus? Ça montre qu'entre David et Michal, sa femme, rien n'est marché. Rien n'est marché. Ils étaient à couteau tiré. Où était ce David pour dire à sa femme, ma femme, voilà comment ça se passe. Ma femme, peut-être tu ne me comprends pas très bien. David pouvait se mettre à expliquer sa femme, à lui enseigner comment se passe l'adoration, comment se passe la louange. Mais David va réagir de manière méchante. Dans une maison où il y a des flèches qui sont tirées dans tous les sens. L'homme tire, la femme également tire. Il n'y a personne pour apaiser. Et souvent, beaucoup de vies, des couples sont pareils. Il y a la guerre qui règne entre l'homme et la femme. La femme a prié, mais l'homme, c'est à ce moment-là qu'il profite pour faire des bruits, déranger la vie de prière de sa femme. David aurait dû réagir d'une manière sage. David est cet homme qui est rempli du Saint-Esprit, tout à fait spirituel, mais sagesse zéro à ce niveau-là. Ta femme a déraillé, ta femme a dérouté. David, tu dois savoir comment la ramener sur la bonne voie. Et non seulement l'attaquer, mais aussi s'en prendre à sa famille. C'est l'Éternel qui m'a choisi des préférences à ton père et à toute sa maison. Et cela crée beaucoup de désordre dans cette famille. David pouvait épargner, puisque dans ce combat-là, Dieu restait Dieu, Dieu restait juste. Puisque David, c'était un roi de Dieu. Ne touchez pas, mais ouais, comme Milka avait touché au roi de l'Éternel, Dieu avait frappé Milka. Milka n'a pas eu d'enfant toute sa vie. Mais si Dieu avait frappé Milka, c'est à cause de son mari. Tu sais que tu es intouchable, tu sais que tu es gardé, protégé par les anges. Personne ne peut s'en prendre à toi. Mais ne donnez pas aussi à d'autres personnes l'occasion de tomber dans ces pièges. David, tu connais l'importance de l'adoration, c'est bon. Tu sais combien adorer Dieu, c'est bon, David. Mais enseigne toutes ces valeurs-là à ta femme et vous marcherez sur la même longueur d'onde. Mais ce n'était pas le cas avec David. Ce n'était pas le cas avec David. David est un genre de fois de personnes qui traitent leur conjoint de sorciers ou de sorcières. Parce qu'elle ne s'aligne pas dans la vie des prières. Mais qu'est-ce que tu fais avec sagesse pour amener la personne sur la même voie que toi? La femme t'attaque méchamment. Toi aussi, tu l'attaques méchamment. Mais la famille, à quoi ça va ressembler? Les couples, à quoi ça va ressembler? Personne pour prendre l'initiative de demander pardon. David pouvait dire au moins à sa femme, non ma femme, tu sais quoi, quand on adore Dieu, ça se passe comme ça. Ne dis pas ce que tu as dit là ma femme, ça se passe comme ça. Michal aurait peut-être dit demander pardon. Non mon chéri, pardonne-moi, j'ai mal réagi. Toi ta femme t'attaque, toi je te réponds par les attaques. Tu réponds par les attaques. Et ça crée la débandade au sein de la famille. Et il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont détruites à cause de ça. Personne parmi les conjoints peut faire usage de la sagesse. pour sauver la maison. Et cela peut aussi se voir dans les différents domaines de notre vie. Peut-être là où tu travailles, quand on t'attaque, comment tu réagis? La maturité, ça se voit surtout dans nos réactions. Quand nous recevons les attaques de la part des autres, comment réagissons-nous? Quand on t'injurie, comment réagis-tu? Et c'est ça ce qui s'est passé dans la vie de David. Il y a une règle d'or que j'aimerais que nous puissions retenir. Dans le ministère, nous pouvons transformer le membre de nos familles. Soit en nos alliés, soit en nos adversaires, nous disait l'apôtre Roland Dallo. Dans le ministère, tu peux transformer les membres de votre famille, là, soit en tes alliés, soit en tes adversaires. Tout dépend de la manière dont tu le gères. Même dans tes affaires, tu peux transformer les membres de ta famille soit en tes alliés, soit en tes adversaires. Comment tu le gères? Tout dépend de toi. Est-ce que ta femme s'implique-t-elle dans ce que tu fais? Est-ce que ton mari s'implique-t-elle dans ce que tu fais? S'implique-t-il dans ce que tu fais? Est-ce qu'il vient t'épauler? Tout dépend de la manière dont tu les traites. Tout dépend de la manière dont tu le gères. Tu peux transformer ton mari, soit en ton allié, soit en ton adversaire. Même tes enfants, tu peux les transformer soit à tes alliés, soit à tes adversaires. C'est un conseil que nous avions donné à l'apôtre Roland Dallo. La réussite dans la vie ne se mesure pas seulement dans les exploits ministériels accomplis. Pas dans les immeubles construits, ni dans le nombre de voitures élevées achetées. Mais aussi et surtout dans la manière dont nous gérons les membres de nos familles. Dans la manière dont nous gérons notre vie de couple. Une vie de couple qui était devenue un champ de bataille, un champ de tir. La femme tire d'un côté, l'homme aussi réagit de l'autre côté. Et ce qui est drôle, souvent quand je regarde la vie de David dans les passages qu'on a lus ensemble de 1 Samuel chapitre 18 verset 5, la Bible dit, David allait partout et réussissait. Il fut mis à la tête des gens de guerre. Là c'est David. Et la Bible dit ce qui est fort, je l'ai même mis en rouge. David plaisait à tous les mondes, à tous les peuples, même aux serviteurs de Saul. Ça veut dire quoi? Tout le monde était content de voir David. David plaisait à tout le monde. Il plaisait même aux serviteurs de Saul. Il y a aussi des personnes pareilles. Il plaît à tout le monde. Il plaît même aux serviteurs. Mais à sa femme, ce n'était pas le cas. David ne plaisait pas à sa femme. Il y a aussi des hommes pareils. Tu admires tout le monde. Tu apprécies tout le monde. Mais tu n'apprécies pas ta femme. Tu peux faire des compliments. Il y a de ces maris-là qui peuvent faire des compliments à tout le monde. Mais à leur femme, ils ne font jamais de compliments. Tu peux rire avec tout le monde, mais sauf avec ta femme. Il y a des couples compliqués, des couples qui souffrent de ces choses. David, quand il était avec tous les peuples, waouh, il était content. Il plaisait à tout le monde. Tout ce que faisait David, ça plaisait à tout le monde. Mais pas à sa femme. Et vice-versa aussi. Il y a de ces femmes-là qui plaisent à tout le monde, mais pas à leur mari. Quand elle est avec les frères de l'église, avec les papas de l'église, tout gentil, elle peut se mettre à rire avec 30 dents. Mais avec son mari, c'est autre chose. Avec son mari, ce sont des paroles méchantes. Et ça tue beaucoup de couples. Malgré sa réussite dans la royauté, David n'a pas pu avoir un couple aisé. Une vie de couple aisée. David n'a pas eu cela. David n'a pas eu cela. Puisqu'à un moment donné, je me suis posé la question. Mais quelle est la source de ce comportement amical vis-à-vis de David? Quelle est la source? Comment la femme de David, elle est également la princesse. Comment peut-elle arriver à ce point-là? Et David ne savait-il pas que la femme qu'il allait épouser était une méchante fille? Ah, quand j'essaie un peu de regarder comment est-ce que David a eu à voir Michal, c'était le choix de Saoul. C'est Saoul qui a pris sa femme et qui l'a donnée à David. Vous êtes encore célibataire. Il faut bénir Dieu parce que vous avez encore le temps de rectifier les choses. Le choix. Prends le temps de bien faire le choix. Sans précipitation, sans une influence quelconque. Que ce soit ton choix à toi, pas une choix, un choix imposé, comme David a eu à le subir. C'était Saoul qui a donné sa fille à David. Tu es célibataire, ne joue pas avec le choix. Il y a des choix importants qu'un homme puisse faire sur la terre. Le premier choix, c'est celui de recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Et le deuxième choix, c'est le choix du conjoint. C'est important, il ne faut pas jouer avec. Parce que si tu fais un mauvais choix, laissez-moi te dire, mon frère célibataire, tu vas commencer l'enfer tout en étant sur la terre. Et si tu arrives à faire les bons choix, tu commenceras les paradis tout en étant sur la terre. Ma prière ce matin, le chevet de mon cœur, est que tu fasses un bon choix au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accompagne dans ses choix au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'attends pas la main des célibataires. Prends le temps. Bien se marier, ce n'est pas se marier vite, mais se marier avec la bonne personne au bon moment. Bien se marier, je répète, ce n'est pas se marier vite, mais se marier avec la bonne personne et au bon moment. Il n'y a pas eu de compétition à faire. Un mauvais choix, ça sera une introduction à la vie de l'enfer. Et l'onction que nous avions reçue, c'est l'onction d'unir et non de séparer. Tout est parti de son choix. Tout est parti de son choix. De l'autre côté, pourquoi cette femme pouvait-elle avoir un tel comportement? Quelque part aussi, c'est David. Quelque part aussi, c'est David. Est-ce que David avait eu le temps de passer avec sa femme à la maison? David était ce soldat-là qui, à tout moment, passait d'une caverne à une autre. Et à un moment donné, je vois dans quel passage, là, de 1 Samuel chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 4, on nous montre David qui va laisser sa famille à Tisglad et aller en guerre, en excursion quelque part. David a pris tous ses soldats. Il est allé en guerre. Il a laissé sa femme. Les soldats-là également ont laissé leur famille à Tisglad. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va faire une excursion à Tisglad. Tisglad sera consumé par les feux. Lorsque David arriva le troisième jour à Tisglad avec les gens, les Amalekites avaient fait une invasion dans le midi et à Tisglad. Il avait détruit et brûlé Tisglad après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et ils s'étaient remis en route. C'est ça. Quand David est retourné à Tisglad avec ses soldats, ils ont vu le feu sur la ville. David a commencé à pleurer. Où sont partis nos enfants? Où sont partis nos femmes? Voici la ville, elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et les peuples qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'en eussent point de force de pleurer. On a kidnappé la famille de David. On a kidnappé les femmes de David. Alors faisons cette analyse-là. Le kidnappeur. Ils ont enlevé, ils ont pris en otage. C'était surtout des militaires ennemis. Nous savons tous comment est l'attitude, le comportement des militaires ennemis face aux personnes de sexe opposé. Certainement les filles de Saoul, les filles plutôt des soldats de David, certainement même ces femmes ont été violées par ses ennemis, par ses Amalekites. Ces femmes ont été violées. Ces filles ont été violées. On ne les a pas tuées, mais on les a emmenées captifs. Certainement, ils ont été violés, abusés sexuellement. Est-ce que vous voyez maintenant toutes ces choses-là? Est-ce que ça pouvait faire que les femmes de David puissent être en paix avec leur mari? Puisqu'à vrai dire, toute femme aime l'homme qui la sécurise.
Toute femme aime avoir à côté d'elle un homme qui sait la sécuriser. Toi, l'homme, tu es tout le temps parti. Et tu nous laisses seuls. Personne pour nous sécuriser. L'ennemi nous a violés. Certainement à cause de cela, des fois, quand les femmes de David regardaient David comment chanter, ils disaient, regarde cet homme-là. Il ne sait même pas sécuriser sa femme. Il ne sait même pas protéger ses enfants. Tout ce qu'il sait, c'est danser. Tout ce qu'il sait, c'est danser. Et c'était grave. Tout homme, toute femme plutôt, aime une personne qui la sécurise. Qui la sécurise. Aujourd'hui, il y a des hommes plus pérés que les femmes. Vous regardez un faux mouvement à la maison, tu dis à la femme d'aller vérifier. Oh, Zambinanga. Zambinanga. Hein? Oh, madame, que nous nous vérifions. Nous devons continuer à continuer le pain. Aujourd'hui, il y a moins que nous vérifions. Et puis, tant que vous vérifiez, à moi, je me doutais, les temps sont en andaku, yo mon bol sont côté de la sambé. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Retenez-les bien. Toute femme aime les hommes qui le sécurisent, qui assurent leur protection. Et ce sont les engagements que nous faisons. Frère, acceptes-tu de l'aimer, de la protéger? Oui, j'accepte. Mais à la maison, tu te mets sous le lit. Quel genre d'homme? Quel genre d'homme? Maman, si c'est comme ça que ton mari te traite là, viens l'accuser. Je vais aller à mon assemblée, toi qui mouvement ma bien. Abatami, abîme-moi si kende. Demande à maman Rebecca, moi je sors. Hein? Moi, je sors. Alléluia. Je sors. Amen. David, avec sa femme, c'était à couteau tiré. L'autre personne qui a échoué dans sa vie de couple, c'est Job. C'est Job. C'est Job. Écoutez ce qui est dit à propos de Job dans Job chapitre 1 verset 8. L'Abbé dit que l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Un homme intègre, droit, craignant Dieu. Ça, Job craignait Dieu. Job, il était intègre. Mais pas sa femme. Job de neuf, sa femme lui dit, Tu demeures ferme dans ton intégrité. Mon mari, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et mère. C'est sa femme qui lui dit. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi du mal. Job craignait Dieu, mais sa femme ne craignait pas Dieu. Je connais des ministres puissants de Dieu dont le ministère s'est écroulé comme des châteaux de cartes parce qu'ils avaient des femmes qui ne craignaient pas Dieu. On vous dit que non, moi ça pasteur, moutoua mi langwa. C'est vraiment honteux. Moi ça pasteur, ndumba. Et là c'est drôle. Un homme sérieux, un homme respectable, mais sa femme, quel mauvais témoignage. Beaucoup échouent dans leur vie de couple. Job craignait Dieu, un homme puissant, intègre, mais sa femme lui dit, maudit Dieu. Maudit Dieu. Maudit Dieu aimé. C'est sa femme qui lui donne ses conseils. Que de ces mamans qui craignent Dieu, mais leur mari c'est autre chose. Et ça détruit même la vraie réussite au sein de la famille. Quels que soient les exploits dans la vie, si cela ne s'accompagne pas d'une bonne vie de couple, c'est déjà un échec. C'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. La gestion de la vie de couple, comme nous l'avions dit, il y a des défis. Le premier défi, c'est au niveau de sa vie de couple. Et le deuxième défi, c'est au niveau de sa relation avec ses enfants. Voyons maintenant ce deuxième point. Dans sa relation avec les enfants, là aussi nous avons des cas. Le premier cas, c'est le cas de Samuel. Et le deuxième cas, c'est encore David qui va revenir. Par là, vous allez comprendre que David a échoué dans sa vie de couple et dans sa relation avec ses enfants. Commençons avec le cas de Samuel. Samuel, nous le connaissons tous très bien. Celui qui a inauguré l'ère prophétique dans la Bible. Celui de qui l'on pouvait dire, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. C'est un homme qui arrivait à la fin de son ministère, quand il fait les témoignages de son parcours, un témoignage tout à fait parfait. Mais quand on nous parle de la vie des fils de Samuel, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Écoutez ce que la Bible déclare. Lorsque Samuel devint vieux, Samuel va établir ses fils juges en Israël. Verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur les traces. Ils se livrèrent à la cupidité, recevant des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, Samuel, toi tu es devenu vieux. Voici, tes fils ne marchent pas sur tes traces. Tu es devenu vieux, mais tes fils ne marchent pas sur tes traces. Tout le monde savait que Samuel était un homme intègre, un homme sérieux. Mais ses fils n'étaient pas sérieux. Ils violaient des femmes dans les temples. Le fils du prophète Samuel. Samuel est l'enfant que Anne a eu dans la prière. Un enfant béni, un enfant de la destinée. Un enfant appelé par Dieu. Donc, il y a Anne. Des fois, toi, tu te comportes bien. Mais comment se comportent tes enfants? Des enfants qui volent à l'école, qui prennent les biens d'autrui, des enfants qui fréquentent des boîtes de nuit, qui vont dans des endroits noirs. Et tu dis que non, tu as réussi dans la société. Non! Cette réussite, on doit aussi la lire dans la vie de tes enfants. Comment sont tes enfants, Samuel? Comment sont tes enfants? Tu as un ministère respecté. Tu as une vie professionnelle respectée. Mais tes enfants là, trahissent cette image. Trahissent cette image. L'autre cas, on revient encore avec les fameux David. Le grand roi. Icône israélite, David. Si on a parlé de ses femmes où ça n'a pas marché, cette fois-ci on va parler de sa relation avec ses enfants, là où ça n'a pas encore marché. Je vois encore quand Dieu avait ordonné à Saoul, que Saoul avait ordonné à Samuel d'écarter Saoul et de sélectionner David. Écoute ce que Samuel, l'Éternel, Samuel va dire. L'Éternel, il va dire à Saoul. Il dit, l'Éternel déchire aujourd'hui la royauté de dessus de toi et l'Éternel donne cette royauté à une autre personne qui est meilleure que toi. Donc, aux yeux de Dieu, David était meilleur que Saoul. Saoul est écarté. David arrive, un roi meilleur, mais un père pire. Le plus mauvais. Un meilleur papa, un meilleur roi, un meilleur travailleur, un meilleur entrepreneur, un meilleur député, un meilleur président, un meilleur professeur. Mais comment au niveau de la famille? C'est un pire papa. Un pire papa. Qu'est-ce qu'il démontre? Dans la famille de David, on a eu à assister à tout sauf rien. Dans la famille de David, pour voir combien il était un pire papa. Il y avait même des abominations dans sa maison. Les abominations dans la maison de David. Le premier acte abominable, c'était de l'inceste. On trouvait ça parmi les enfants de David. Le roi adorateur, le grand roi David, le roi respecté, le boss impeccable, un homme d'affaires prospère, un professeur éloquent. Mais dans sa maison, regarde les choses qui s'est passées, de l'inceste parmi ses enfants. son fils Absalom, son fils Abnon va réussir à violer sa propre demi-sœur Tamar. Et quand cet enfant Amnon mettait en place sa stratégie, son plan pour violer sa sœur, David inconsciemment a participé dans ce plan. Puisque Absalom a dit à son père, il dit, papa, est-ce que tu peux envoyer ma sœur Tamar venir me préparer un mètre de lucier parce que je suis malade? Il a fait semblant d'être malade. Est-ce que tu peux envoyer ma sœur Tamar? Innocente qu'elle était, son père lui dit, Tamar, va, ton grand frère a besoin de toi, tu peux aller lui préparer un mètre de lucier. David souboule. Banabazo lekele esprit. David n'aime d'attendre Tamar qui est dans la chambre de Absalom, il y a Amnon. Et Tamar tanga kekuna, Amnon l'a violé. Laissez-moi vous dire, chers parents, nous serons jugés, non seulement à cause des actes que nous aurions faits, mais aussi dans la manière dont nous avons géré nos familles. Comment tu gères tes enfants? Comment tu gères tes enfants? Donc David a participé, un père souboule. Comment tu gères tes enfants? Il y a aujourd'hui des parents qui sont manipulés par leurs propres enfants. Les enfants te manipulent. L'argent qui permet aux enfants de faire les péchés, c'est toi qui leur donnes ça. Les véhicules avec les enfants font de n'importe quoi. C'est toi qui mets cela à leur disposition. Papa souboule, papa ignorant. Nous participons des fois nous-mêmes à la destruction de nos familles. Attention avec ce genre de choses-là. Fille à papa, fils à papa. Ah, c'est ma fille chérie, c'est mon fils chéri. L'inceste a élu domicile la maison de David. À part l'inceste, puisque cet inceste-là va commettre un autre acte abominable qui est le meurtre. Puisque son frère, quand il va apprendre que Tamar a été violée, l'adoration, accorde-moi un peu de temps. Son frère, quand il va attendre que sa sœur a été violée, Absalom va se venger de sa sœur. Absalom va se venger de sa sœur. Absalom va finir par tuer Amnon. Parce que pendant ce temps, Absalom ne parlait ni en bien ni en mal avec Amnon. Car il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. La haine a élu domicile même la maison de David. David avait le temps seulement à traiter les affaires du royaume, mais il n'avait pas le temps de voir ce qui s'est passé dans sa propre maison. Tu as le temps pour les autres, mais tu n'as pas le temps pour tes enfants. Tu n'as même pas le temps de faire les devoirs avec tes enfants. Tu as mis en place des répétiteurs. Et il y a aussi beaucoup de témoignages de plusieurs enfants qui ont été détournés par les répétiteurs. Même si le répétiteur est là, cela ne va pas te désengager de tes responsabilités. À part les maîtres, à quoi est-ce que nous allons assister? C'est à la rébellion. Le même Absalom deviendra rebelle. Enfant rebelle. Il veut détrôner son père. L'enfant que tu as mis au monde, que tu as élevé, que tu as nourri, habillé, parce que tu ne savais pas comment le gérer. Et aujourd'hui, il s'élève contre toi. À qui la faute? C'est à l'enfant ou aux parents? La Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et tu lui avais montré la voie qu'il devait suivre ou pas? Absalom devient rebelle. Adonija, toujours parmi les fils de David, Anodi Adonija, l'enfant irréprochable. L'enfant que David n'a jamais eu à reprocher dans sa vie. Écoute ce qui est dit dans 1 Rois chapitre 1 verset 5 à 7. Adonija, fils de Haggith, se laissant emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et se procura un chariot de cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père, dit la Bible, ne lui avait de sa vie fait un reproche. Son père ne lui a jamais dit, pourquoi tu fais ainsi? J'aime ce qui est dit dans la version Parole de vie. On dit que cet enfant a jamais
était reproché pendant sa vie.
Quel est cet enfant irréprochable? Quel est cet enfant parfait?
Jésus, écoute, un moment donné, Marie a fâché. Abibi, c'est ton son. Pourquoi toi, tu es resté là encore au temple? Marie a voulu recadrer son fils Jésus. Mais à propos d'Anodija, on dit qu'il n'a reçu aucun reproche de la part de ses parents.
Quel est cet enfant? Était-il parfait?
Non. Non. C'est les parents qui l'ont mal élevé. Je vois encore la version Osterwald. Il dit, son père ne voulait point lui donner des chagrins pendant sa vie, ni lui dire, pourquoi tu agis ainsi? Quel mauvais père.
Tu ne fais pas de reproches à l'enfant. Moi, Nabasimbaki, donc moi, non, j'ai pris le rôle à un oin de l'Éternel. Ne touchez pas mes oins, ne faites pas de chagrins, ne faites pas de mal à mes prophètes.
Élever de tels enfants, c'est préparer son propre malheur. Parce que plus tard, c'est cet enfant qui va s'autoproclamer roi. Et quand nous regardons la vie de David, il y avait beaucoup de disparités. Des disparités dans la vie de David. David avait un royaume dans l'ordre, mais sa famille était dans le désordre. David, il savait former ses généraux. David pouvait prendre des vauriens et en faire des combattants d'élite. Mais le même David ne savait pas former ses propres enfants à la maison. Quelle disparité! David, il veillait sur son royaume. Genre de ses pères qui savent veiller sur ses affaires, veiller sur son business, veiller sur ses programmes de voyage d'affaires. Mais David ne savait pas veiller sur sa propre maison. Et je ne saurais terminer ce message sans pourtant présenter les bons exemples à suivre. Les bons exemples, nous les trouvons chez l'évangéliste Philippe. Quand il nous est présenté, cet évangéliste dans Actes chapitre 8, on dit que Philippe, c'était un évangéliste puissant. Philippe, c'était un homme qui drainait la foule. Plusieurs miracles se faisaient par la main de Philippe. Un homme qui réussissait dans son ministère, qui avait du succès dans la délivrance. Les boiteux, les paralytiques, ils étaient guéris. Les démons sortaient en poussant des grands cris quand Philippe exerçait son ministère. Semblable à cet homme qui réussit dans ses affaires. Tout ce qu'il fait prospère. Alors, je tombe maintenant un coup d'œil dans la famille de Philippe pour voir si aussi Philippe ne se ressemble pas à David. Puisque les exploits de Philippe, nous l'avons aussi vu avec David. Les exploits de Philippe, nous les avons aussi vus avec Samuel. Dans la famille de David, rien n'est marché. Dans la famille de Samuel, rien n'est marché. Voyons maintenant la famille de Saul, de Philippe plutôt. Pour voir la famille de Philippe, atterrissons dans Actes chapitre 21, versets 8 et 9. Là, c'est Luc qui parle. Il relate le voyage missionnaire de Paul et ses compagnons. Il dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Et le verset 9, Philippe avait quatre filles vierges. Et qui prophétisait. Philippe, il a fait. Ce n'est pas Philippe qui a dit que j'ai quatre filles. Les gens ont vu quatre filles dans sa maison. Ce n'est pas Philippe qui a dit que mes filles sont vierges. Les gens ont remarqué que ses filles sont vierges. Ce n'est pas Philippe qui a dit que mes fils prophétisent. Les gens ont bénéficié de ses prophéties. Philippe, un homme puissant dans le ministère. Et aussi sa vie de famille merveilleuse. Ses filles étaient reconnues vierges. Avons-nous encore des filles vierges à l'église? Avons-nous encore des filles vierges dans nos maisons? Avons-nous encore des filles vierges dans nos quartiers? Des fois, je me dis, si c'était dans des périodes comme celle-ci, où Christ devait naître, peut-être que Dieu allait avoir une équation pour trouver une fille vierge par laquelle Jésus passerait. Dieu allait avoir une équation. Comme a dit quelqu'un, la plupart de ces filles aujourd'hui sont des bilocos. Ça veut dire biloc aussi, bah, ça l'est là. Mais les filles de Philippe, elles étaient vierges. Mais pourquoi cela? C'est à cause de l'éducation que ces filles recevaient
de leur père. Combien j'aurais voulu connaître le nom de leur mère, mais malheureusement, la Bible ne la donne pas. Ces filles prouvent qu'elles étaient bien éduquées. Ces filles avaient des vertus morales. Elles savaient se comporter. Éducation, waouh! Et ce n'est pas tout. La Bible dit que ses fils, ses filles plutôt, prophétisaient. Donc, en d'autres termes, ces filles étaient des alliées dans le ministère de leur père. My God, leur père évangéliste, leur père délivrait des gens, leur père opérait des miracles. Et les filles étaient là pour prophétiser. Ces filles pouvaient dire, papa, Dieu me révèle qu'il y a un esprit d'impudicité qu'il faut chasser dans cette dame-là. Quand Philippe allait, esprit d'impudicité, sort. Parce que sa fille l'a aidé à détecter cet esprit. Ces filles ont participé au ministère de leur père. Oh Père, donne-nous des enfants qui vont participer dans ce que nous faisons. Des filles vierges, bien éduquées, craignant Dieu. Est-ce que les hommes ne couraient-ils pas derrière ces filles? Mais elles se disaient, non. Tant que nous ne sommes pas mariés, nous n'allons pas nous laisser dans la vie sexuelle. Aujourd'hui, on a une génération, je peux dire, corrompue, pourrie. Vous n'êtes que des fiancés, mais vous faites tout. Voilà pourquoi vous ne vous précipitez même pas pour les mariages, parce que vous faites déjà plus que ce que font les mariés. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Une génération aujourd'hui pourrie. Des filles qui sont prêtes à vendre leur corps au professeur pour avoir des points sexuellement transmis. C'est grave. Où les valeurs ne sont plus valeurs. Ils ne savent plus garder leur corps. Mais les filles de Philippe, elles étaient vierges et elles participaient. Oh, Philippe, il savait s'occuper des âmes perdues. Il savait s'occuper des âmes démoniaques. Il savait s'occuper de l'église. Il savait aussi s'occuper de ses propres filles à la maison. Il savait aussi éduquer ses filles. Je prie que Dieu nous donne de telles grâces. Nous en avons besoin. Pour terminer, retenons très bien ces trois choses. Dans la vie, dans les affaires, dans les ministères, nous pouvons transformer les membres de nos familles, nos femmes, nos enfants, soit en alliés, à nos alliés, soit à nos adversaires. Ta femme t'accompagne-t-elle dans ce que tu fais? Ton mari approuve-t-il ce que tu fais? Deuxième chose à savoir, la réussite dans la vie ne se mesure pas seulement dans les exploits accomplis, immeubles achetés, voitures, voyages, mais aussi dans la manière dont nous gérons les membres de nos familles. Et la troisième chose, nous devons savoir qu'un jour, nous allons rendre compte à Dieu de la manière dont nous avons géré les membres de nos familles. Je vous invite à nous tenir debout. J'aimerais que tu puisses demander à Dieu de te faire grâce, ce genre de grâce qui était sur Philippe. Yamala muyo salaka Yakito koyo pesaka Yawe zambe zuwa Kembo Yamala muyo salaka Yakito koyo pesaka Yahweh Zambé Zoua Kembo. J'aimerais que tu demandes cette grâce à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Cette grâce qu'avait Philippe d'avoir des filles charismatiques, d'avoir des filles bien éduquées. Alléluia. Kembo. Dis à Dieu qu'il te fasse grâce. Yamala muyo salaka Yakito koyo pesaka Yawe zambe zuwa Kembo. Seigneur, ce matin je viens te prier en faveur de nos enfants, en faveur des enfants dont les parents sont ici présents. que nos enfants te craignent, que nos enfants marchent dans la crainte de ton nom, que nos enfants te servent, que nos enfants fassent preuve d'une bonne moralité et que nos enfants te servent. Que le diable n'arrive pas à avoir de l'emprise sur nos enfants. Que l'ennemi ne détruise pas nos enfants. Je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toute personne en ce lieu présent, que nous réussissions dans notre vie de famille, que nous réussissions avec nos femmes, que nous réussissions avec nos maris, que nous réussissions avec aussi nos enfants. Nous voulons réussir avec nos enfants. Quand on regardera nos enfants, qui disent que ce sont les enfants d'un père qui a réussi. Parce que cette réussite, nous la voyons même dans la vie aussi de ses enfants. Yamala moyo salaka yakito koyo pesaka Yahweh, Yahweh.